maintenant que tous les otages et les corps d'otages malheureusement sont rentrés en Israël, on va s'intéresser au plan 2, à la phase 2 du plan Trump, à savoir l'avenir de Gaza et le désarmement du Hamas. Alors Jonathan, pour nous en parler ce matin, nous sommes avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. C'est dire si il doit être dans les secrets d'Alcove. Je vous laisse parler de cela avec lui, bien entendu.
Raphaël Jérusalmi, bonjour et Boker Tov.
Boker Tov.
Déjà, première question, on parle beaucoup de désarmement du Hamas, désarmer le Hamas. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de désarmer le Hamas, car depuis près de deux ans maintenant, l'armée israélienne multiplie, on le sait, les opérations. Il y a une guerre dans la bande de Gaza et l'arsenal militaire de l'organisation terroriste palestinienne a bien réduit depuis ces deux années de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors, l'arsenal a réduit, surtout en ce qui concerne les missiles et les roquettes que le Hamas tirait allègrement vers Israël. Ceci étant dit, il reste encore à peu près 3000 roquettes et missiles tout calibre, toutes portées aux mains du Hamas. Et 3000, c'est un chiffre conservateur, avec de nouveau la capacité dans les zones évacuées par Tsahal de produire artisanalement des roquettes, en tous les cas jusqu'à moyenne portée. Et donc on est peut-être plus qu'à 3000 projectiles. Sur le plan de l'armement plus léger, le Hamas est armé jusqu'aux dents. Et non seulement il ne désarme pas, mais il se réarme. Et on voit sans cesse, parfois on a réussi à en intercepter, de la contrebande qui se dirige vers le Hamas avec de l'armement, des explosifs, que ce soit par drone qui soit lancé du Sinaï vers Gaza ou même dans les convois de ravitaillement humanitaire, dans les camions qui rentrent chaque jour, plusieurs centaines de camions rentrent chaque jour dans Gaza, impossible de tout vérifier et donc contrebande. Le Hamas ne désarme pas, le Hamas se réarme et en plus recrute de nouveaux terroristes combattants. Et aujourd'hui, on estime qu'il a recruté autant de nouveaux terroristes qu'il y en avait eu d'éliminés durant les deux ans de guerre.
Si demain le conflit reprend, il pourrait reprendre à une intensité pas aussi forte qu'au début de la guerre, mais assez élevée.
Il devrait reprendre avec une intensité encore plus forte pour deux raisons. Un, on n'y a plus d'otages dans Gaza et donc on peut opérer plus librement. Deux, il faut considérer que, en fin de compte, pour des raisons tant militaires que politiques, la campagne contre le Hamas à Gaza a échoué. Partout ailleurs, sur tous les théâtres d'opération au Proche-Orient, Israël a été vainqueur, a marqué des points, mais là, à Gaza, c'est l'échec. Il faut donc considérer qu'on repart pratiquement à zéro, tout simplement, et remettre les plans sur la table et passer à une stratégie qui soit plus efficace que celles qui ont été adoptées jusqu'à présent et qui n'ont pas réussi, puisque l'un des objectifs majeurs de cette offensive était le démantèlement de la force militaire du Hamas. On est obligé d'établir un constat d'échec, ce qui n'empêche pas d'envisager effectivement de repasser à l'action d'une façon plus cinglante.
Pensez que le fait d'avoir vu Israël accepter ce plan de paix de Donald Trump signifie un échec pour les autorités israéliennes?
Non, si le plan Trump fonctionne. Or, il ne fonctionne pas. Le plan Trump, sur le papier, est excellent. Désarmer le Hamas, il inclut désarmer le Hamas. Et ensuite, même qu'il n'y ait plus de Hamas au pouvoir à Gaza, mais un pouvoir différent, un régime différent, avec une reconstruction et un avenir meilleur économique et humanitaire pour les Gazaouis, tout cela c'est très bien sur le papier. Or on voit que sur le terrain, pour l'instant, le plan Trump ne fonctionne pas. On a vu comment a fonctionné la phase 1 de retour des otages qui aurait dû durer 3 jours, elle s'est étendue sur 3 mois, et on voit aussi que pour la phase 2, rien n'est en place, en fin de compte. La fameuse force internationale n'est toujours pas là, elle n'est pas encore constituée, elle ne patrouille pas dans Gaza, donc il n'y a personne pour faire régner l'ordre et la sécurité dans Gaza, à part le Hamas, qui l'a fait régner de façon tyrannique. Et donc, pour l'instant, cette force internationale n'a d'ailleurs pas de mandat, et là, c'est même sur le papier que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire elle n'est pas mandatée pour désarmer le Hamas par force, si besoin est. Car pour faire désarmer le Hamas, il faudra utiliser la force, puisque pour l'instant, le Hamas se refuse carrément, et le dit très clairement, de désarmer.
Pensez-vous, Raphaël, que d'autres pays doivent participer à une opération militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza, ou c'est une vue de l'esprit, c'est une utopie ?
C'est une utopie, mais si on réfléchit au devoir moral et sécuritaire des pays de la communauté internationale, en fin de compte, le Hamas, comme le Hezbollah, comme en fait tous les ennemis auxquels Israël se voit confronté, c'est le problème du monde entier, c'est pas seulement le problème d'Israël. Les outils du Yémen, avec tout le respect, c'est à 2000 km d'Israël, l'Iran c'est à plus de 1200 km d'Israël, et ça demeure le problème d'Israël, ça devient un petit peu ridicule. Alors on espère maintenant une intervention américaine, il y a eu ici et là des timides interventions britanniques et françaises dans certains cas, mais dans l'ensemble, la responsabilité n'est pas assumée d'une menace islamiste qui est globale, et la réponse devrait être globale, mais vous avez pour preuve aujourd'hui la frilosité avec laquelle on approche le problème de l'Iran, lorsqu'on constate que même la France aujourd'hui n'est même pas capable de reconnaître que les gardiens de la Révolution peuvent avoir assassiné des dizaines de milliers d'Iraniens, soit désigné comme un organe terroriste. Il y a ici une honte véritablement de cette communauté internationale qui n'agit pas. Et oui, ils devraient se battre. Pourquoi ? Ce sont seulement les soldats et les soldats israéliens qui tombent au combat contre une menace mondiale de l'islamiste.
Dernière question, Raphaël. Si le Hamas est vaincu, on l'espère de tout cœur, après une opération militaire ou bien par voie diplomatique, ne risque-t-on pas de voir le Hamas transférer ce conflit sur le sol de la Judée-Samarie?
Oui, tout à fait, c'est déjà fait d'ailleurs, c'est juste parce qu'en Judée-Samarie, par rapport à Gaza, où je parle d'un constat d'échec, en Judée-Samarie, il y a un contrôle militaire et sécuritaire israélien assez fort, qui permet d'éviter le pire, les attentats et les tentatives de massacre, dont je peux vous assurer que le Hamas, le djihad islamique et parfois des membres de l'OLP essayent de planifier. Il y a donc ici un exemple à suivre sur le contrôle sécuritaire qui est exercé. On pourrait aussi quand même envisager à Gaza, n'oublions pas que les Israéliens soutiennent très fort les clans bédouins, les Hamoulotes de Gaza, qui se battent, eux, véritablement contre le Hamas. Et je pense qu'on a peut-être commis une erreur en ne pas laissant revenir l'OLP et le gouvernement de l'autorité palestinienne de Ramallah reprendre en main Gaza et les mettre devant leurs responsabilités, avec la très grande possibilité, et pourquoi pas, d'une guerre civile entre l'OLP et le Hamas sur Gaza. Laissons-les s'entretuer plutôt que d'envoyer de nouveau nos garçons et nos filles au combat et risquer leur vie face à ces monstres.
Raphaël Jérusalmi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin.